Le psaume sous les étoiles, chapitre 3. Malgré les émotions de cette journée, j'avais dormi d'un trait jusqu'un peu avant l'aube et dès mon réveil, j'étais descendu à la grande cuisine du mas où Cézette Galissard, notre baïesse, surveillait les apprêts de l'appétissante soupe du matin, causant à voix basse avec Abraham Mazel. Je déjeunais et m'entretins avec le prophète, cependant que la bonne Cézette lui emplissait un sac de provisions de bouche. Et comme il allait vers le Pompidou, je l'accompagnais jusqu'à la croisée du chemin de Soulages. Ah, quel délice de respirer l'air du matin, quand le jour va apparaître et que des bois, des eaux et des bruyères montent l'arôme ensorceleur de la patrie. Abraham disait « Jean Peyrob, fils de Jérémie, je t'ai connu quand tu étais un enfant. Sache que ton père ayant été nommé le juste, tu dois un jour hériter de ce nom et t'y prépare. Et souviens-toi qu'il n'y a de justice qu'en Dieu. Il se peut que dans cette Toulouse, qui est devenue une sentine de vices, une Babel d'idolâtrie, tu aies perdu le sens de ta race et la connaissance de la vraie foi. Alors, ami, que le Seigneur t'éclaire. » Je répondis, « Abraham Mazel, tu sais comme nous avons été nourris entre la Bible secrète de nos mères et le catéchisme public du curé. Dès lors, comment connaître la vraie foi ?»« En priant, » dit-il. « Oui, j'entends bien, pour croire il faut prier. Mais comme pour prier il faut croire, on n'en sort plus, Abraham. »« Incrédule, ah, malheureux enfant, qui te rendra la foi de tes pères ?» Thomas crut après avoir mis la main dans la plaie du Seigneur. Et toi, faudra-t-il que tu sondes la blessure de ta race crucifiée comme lui? Faudra-t-il que Dieu te montre ses miracles? Hélas, Abraham, l'ère des miracles est passée. Il m'interrompit vivement. Passé? Imprudent! Qu'en sais-tu? Crois-tu donc que le bras de Dieu se soit raccourci depuis 1700 ans et qu'il ne puisse, comme jadis, se témoigner à nous? Ah, tu verras ton erreur, mon fils, tu la verras, et alors tu sangloteras le front dans la poussière. Je ne demande qu'à l'avoir, Abraham, car il doit être infiniment doux de croire comme tu crois, sans un instant de doute. Hé, Jean Peyrob, comment peut-on douter des promesses de Dieu, puisqu'il est notre Père? Ne crois pas qu'il nous abandonne aujourd'hui. Il punit sur nous la faute de nos devanciers qui l'ont renié, et s'il nous frappe, c'est qu'il nous aime. Il nous frappe fort, Abraham. Depuis que je suis rentré au pays, les souffrances de notre peuple me bouleversent. Je lui racontai alors la scène révoltante dont j'avais été témoin à Alès et la profonde impression qu'elle avait laissée dans mon âme. Abraham dit, « Tu es trop jeune pour te souvenir des premiers temps de la grande tribulation, quand les soldats furent envoyés pour loger à discrétion chez ceux qui ne voulaient point abjurer. Et voilà 20 ans que durent les persécutions, et plus on nous persécute, plus nous allons aux assemblées. » Le terrible est que toujours, en fin de compte, c'est Jean Piquemotte, le pauvre paysan, qui est foulé. On lui brûle sa chaumière, on le pourchasse comme un sanglier des bois. Il faut qu'il se réfugie aux tanières et y vive en bête sauvage. Et alors, garde-vent s'il lui pousse des griffes. » Abraham demeura un instant silencieux et pensif. « Tu ne te rappelles pas, reprit-il, sous Beyran la Perruque, du mas de Fontanille, proche de Peyrol. Tu étais trop jeune quand on l'a pris. On lui avait mis une garnison de 4 Allemands avec un sergent, qui les torturèrent de toute façon tellement qu'un jour poussé à bout, Soubeyran tua le sergent d'un coup de hache, puis s'en sauva parmi les bois avec sa femme. Plus d'un an, on les traqua, sans pouvoir les trouver. Ils s'étaient ménagé un repère dans une caverne au sein d'une hêtrée impénétrable. La Perruque, étant venue quérir son arrière, avait bâti un joug qui s'adaptait à son cou. Et la nuit, sa femme le guidant, il tirait la charrue comme un bœuf et labourait la terre. Tous les gens du pays savaient leur retraite, et nul ne les trahit, jusqu'au jour où, le bourg de Peyrol étant menacé d'un logement de troupes en pure perte, c'est-à-dire du pillage, un malheureux qui depuis mourut de mal mort s'étant pendu lui-même à un de ses noyers, les alla dénoncer. Quand les soldats cernèrent son refuge, Soubeyran les reçut à coups de fusil et en tua 2. Puis, blessé lui-même, il fut emporté avec sa femme à Alès, où on les eut vite jugés et guéris, lui par la roue, elle par le gibet. je demeurai un instant sous le coup de l'horreur qui m'avait pénétré. « Enfin, Abraham, dis-je, que comptes-tu faire? Il faudra bien que nous nous soumettions. Alors, comment osas-tu hier parler de prendre les armes? Tu sais bien que c'est impossible. Tu le reconnais toi-même. Vous n'avez ni chef, ni armes. Pourquoi dire des choses dangereuses qui ne peuvent avoir d'effet et nous attireront du malheur ?» Abraham s'arrêta. Il leva les yeux vers le ciel où pâlissaient les dernières étoiles. « Dieu seul, dit-il, commande le malheur. S'il l'a décidé, qui pourrons-nous redire? Et s'il veut réellement que nous prenions les armes, il faudra bien, Jean Peyrobe, que nous lui obéissions et qu'il nous en fournisse. Et si nous n'avons pas de chef, c'est qu'il se propose sans doute d'être lui-même le chef des chefs pour nous. En toute chose, il faut s'abandonner à sa volonté sainte. Et puis, Dieu n'a besoin de fusils ni d'épées. S'il l'ordonne, armés de bâtons et de psaumes, nous déferons les cohortes les plus mordantes, car il jettera l'effroi dans leurs rangs. Oui, qu'il nous accorde seulement ses grâces, et nous mettrons en fuite les plus solides escadrons, allant aux ennemis comme si nous étions vêtus de fer, et qu'ils eussent, eux, des bras de laine. » Le jour commençait à poindre. Nous venions d'atteindre le haut de la côte, et l'horizon se découvrait. La came de Bar s'illumina au loin. Nous reconnûmes la masse de l'Aigual qui se précisait dans la brume. Un grand silence régnait sur les choses, et comme nous arrivions vers les hêtres de la basse phage, tous les petits oiseaux du ciel se mirent à crier pour saluer le jour. Abraham ôta son large feutre et s'agenouilla. « Élevons, dit-il, nos cœurs à l'Éternel en chantant sa louange. » Et il entonna d'une voix grave et chaleureuse le chant de Théodore de Bèze qu'on nommait vulgairement le psaume des monts. « Vers les monts, j'ai levé mes yeux, cuidant à voir d'en haut le secours qu'il me faut, mais en Dieu qui a fait les cieux et cette terre ronde, maintenant je me fonde. » Et voici que l'enchantement du psaume de nouveau s'emparait de moi. Cette musique simple et populaire qui semble s'envoler, s'évader du vieux plain-chant lugubre, ainsi qu'une âme neuve de lumière et de vie, me pénétrait profondément, mais m'émouvait aux larmes. Elle sortait des bois, des rochers, de toute la terre, de toute la race qui en était imprégnée. Elle venait par ondes radieuses des horizons d'azur pâle, montait un hymne d'allégresse du creux de la vallée. Et, frissonnant d'une indicible ferveur, je tombai à genoux près du prophète et mêlai ma voix à la sienne. « Marcher te fera sûrement et te viendra veiller sans jamais sommeiller. Voici d'Israël, voirement, la garde toujours veille, même point ne sommeille. » Puis, tout ému, j'embrassai Abraham, lui souhaitai un bon voyage et redescendis vers le château de Timothée de Leuze, dont les tourelles surannées apparaissaient maintenant parmi les châtaigniers. À mesure que le soleil s'élevait, les nappes lumineuses glissaient des hauteurs vers les fonds, enveloppaient les croupes, les mordaient plus avant d'une caresse ardente, traçaient des courbes fantastiques sur les flancs des combes, allumaient l'or des rochers, jouaient avec les fumées des hameaux en réveil. On entendait monter des rumeurs vagues, des pâtres s'appelaient de Montjoie en Montjoie, et des cloches lointaines épandaient dans l'espace une paix immense et bénie. Il me semblait que la nuit eût emporté avec elle toutes les évocations sinistres du passé, récents ou lointains, les massacres et les incendies, la persécution et la terreur. J'oubliais tout. Je me baignais dans l'allégresse matinale, j'y confondais tous les hommes, toutes les religions, l'excellent abbé Bastide avec le rude prophète Abraham, les assemblées au désert et la messe du curé. Était-il possible, en effet, que les braves gens ne vécussent point comme des frères, sous la splendeur apaisante d'un ciel si bleu? Possible que de vaines questions de dogme, imaginées par des rêveurs, jetassent un trouble infini au sein des familles? Pouvaient-elles vraiment dresser l'une contre l'autre, Isabeau et Florette? Florette, je dévalai rapidement vers le Montredon, et comme j'arrivais devant la terrasse du château, je l'aperçus en robe claire d'escaut de mande, qui, un joli cruchon de cuivre à la main, arrosait des giroflées. Elle était si affairée qu'elle ne m'entendit point venir, et quand je fus tout près derrière elle, je lui criai brusquement « Petite fleur !» Elle fut surprise, lâcha l'arrosoir qui se vida, et s'étant retournée « Ah, grand Nigaud, tu m'as fait peur !» Et mériterait d'être battue. » Elle s'élançait, la main levée, mais je l'attirai vers moi et nous nous embrassions. « As-tu dormi, Florette ? J'étais inquiet de toi et de ton aïeul après la fatigue d'hier soir. Mon aïeul et ma tante reposent encore, car le soleil n'est point très haut, et si je suis debout, c'est que j'aime tant le matin. L'air est si pur, les fleurs si fraîches. Je le sais, Florette, je n'ai pas oublié que nous étions souvent les premiers levés au Mas Roger. Et te souvient-il des escapades que nous faisions ensemble, tout petit, quand Nicole dormait encore ?»« Ah, si je m'en souviens, » dit-elle en riant. « Et d'où viens-tu si matin, mon frère Jean ?»« Je viens d'accompagner le prophète Abraham jusqu'à la basse phage. » Oh, que t'a-t-il dit ? Raconte, Jean, raconte !» Je lui fis alors le récit de notre conversation avec Abraham. Elle était dans l'admiration, me faisait répéter les paroles du prophète. « Quel admirable serviteur de Jésus-Christ » dit-elle. « Et ne sens-tu pas comme moi qu'il faut que Dieu inspire vraiment ses humbles pour qu'ils puissent ainsi nous émouvoir ?»« Oui, je crois en effet qu'Abraham est un apôtre. De lui émane une force de conviction qui réchauffe le cœur. » « Mais, entre nous, Florette, ne penses-tu pas qu'il soit aussi un peu fou ?» Son visage devint grave. « Oh, Jean, » dit-elle, « peux-tu parler ainsi ?»« Oui, un peu fou, quand il annonce qu'il va prendre les armes. Ah, s'il répète partout cet ordre de l'esprit, je comprends que l'abbé Duchesnel le recherche. Et quand je l'ai repris sur la folie d'une imagination pareille chez un pauvre paysan, quand je lui ai dit que, pour prendre les armes, il fallait d'abord en avoir, et avoir aussi un chef et des compagnons. Sais-tu, Florette, ce qu'il m'a répondu ? Dieu n'a besoin, a-t-il dit, de fusils ni d'épées. S'il l'ordonne, armés de bâtons et de psaumes, nous déferons les cohortes les plus mordantes, car il jettera l'effroi dans leur rang. Oui, qu'il nous accorde seulement ses grâces, et nous mettrons en fuite les plus solides escadrons, allant aux ennemis, comme si nous étions vêtus de fer, et qu'ils eussent eux des bras de laine. » Florette avait joint les mains et me regardait comme en extase. Il a parlé ainsi. Ô Jean, quelle sublime parole, quelle certitude absolue dans le secours divin. Et pourrais-tu douter encore qu'il soit vraiment inspiré de Dieu ? Ah, mon frère, il ne faut plus que tu doutes. C'est pour moi un fardeau sur le cœur que tu dois m'ôter. Je veux que tu m'entendes et regagne la foi de nos pères. Tu viendras avec nous au désert y entendre les prophètes que Dieu nous a suscités. « Certes, j'irai, Florette, chérie, j'irai avec toi partout, ne fût-ce que pour te défendre au besoin. Veux-tu que je te le jure ? Ne jure pas, car il est écrit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Promets seulement. » « Eh oui, Florette, je le promets sincèrement, de tout mon cœur. J'écouterai ta parole avec joie et je te suivrai partout. » Alors elle sourit. Mais elle sourit d'une façon imprévue et nouvelle, et par ce clair matin, je fus soudainement tout ébloui de son sourire. Il me sembla qu'une forte odeur de rose mousseuse, emperlée d'égaille, m'envahissait, me pénétrait jusqu'aux moelles, et j'en défaillais comme d'une ivresse inconnue. Je m'assis, étrangement troublé, sur une marche du perron de pierre. « Ah, Florette, dis-je, que tu es devenue belle et jolie, toi qui n'étais jadis que ma petite mignonne. Hélas, tu as si bien grandi et changé que je n'oserais plus t'embrasser maintenant. » Elle me regarda toute surprise. « Quelle idée ! » dit-elle. « Et pourquoi donc, je te prie, mon frère Jean ?» Et m'ayant pris affectueusement la tête dans ses mains, elle me baisa au front. Je me relevai et la baisai pareillement, mais je dus la serrer un peu fort, car elle se dégagea vite, faisant la moue. « Oh, tu piques, vilain barbu !» Elle courut vers la grande porte du château et tendit l'oreille. « Viens » cria-t-elle, « tant il de l'être élevé. » Et nous entrions dans la grande salle du plain-pied où damoiselle Idelette donnait ses ordres pour la journée à la baillesse Claire Sugier qui disposait sur la table des écuelles profondes en terre de moustier autour d'une jarre d'anduze pleine de lait. « Venez ça !» dit la vieille demoiselle. « Nous allons prier Dieu et goûter ensemble le lait tout frais. » Claire alla quérir les servants et les servantes qui se rangèrent dans le fond de la vaste salle, on ferma les portes et les croisées, et Idelette commença la prière du matin, disant « Notre bon Dieu, Père et Sauveur, puisqu'il t'a plu nous faire la grâce de passer la nuit pour venir jusqu'au jour présent, veuille nous aussi maintenant faire ce bien que nous l'employons tout à ton service. et comme il te plaît faire luire ton soleil sur la terre pour nous éclairer corporellement. Ainsi veuille-nous, par la clarté de ton esprit, illuminer nos entendements et nos cœurs pour nous adresser à la droite voie de ta justice. Exauce-nous, notre Dieu, notre Père et Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, au nom duquel nous te supplions, comme il nous a enseigné, disant « Notre Père qui es aux cieux ». Puis, l'oraison dominicale étant finie, tout le monde dit « Amen » et Idelette continua en ces termes. « Mes frères et sœurs, nous allons célébrer la louange de Dieu en chantant quelques psaumes. Ainsi faisaient nos pères en toute liberté et toute voix chantante. Mais depuis que le diable, en dissipant l'Église, en a fait l'horrible ruine dont on voit encore les enseignes en la plupart des lieux, vous savez que nous devons musser notre culte et chanter à voix basse comme faisaient les premiers chrétiens en les catacombes. Ainsi, ma fille Florette chantera-t-elle seule la première et la dernière strophe du psaume 113e et l'accompagnerait, s'il vous plaît, du dedans de vos cœurs seulement. » Et Florette entonna le psaume de Clément Maroux, « Enfant qui le Seigneur servait ». Les assistants suivirent en silence les premiers vers. Mais le charme du psaume les prenait tellement, venait de si loin dans cette race que, peu à peu, chacun accompagnait à voix haute comme poussé par une force irrésistible. Puis, les serviteurs étant sortis, Idelette nous convia à nous asseoir autour de la table pour tremper dans le lait une appétissante brioche. Mais déjà Florette revenait en courant de l'office, une seille à la main. « Non, tante, dit-elle, nous voulons boire du lait bourru, et je vais le traire moi-même. » La bonne vieille s'effarait. « Quelle folie, encore, Florette !»« Tante, tante, je t'en prie, laisse-nous aller. J'en tiendrai la chèvre, ce sera si amusant. » Nous étions déjà dehors, cependant qu'Idelette du seuil nous faisait sans recommandation. « Ne cours pas trop, n'est-ce pas ? Un tout petit peu, tante. »« Jean, mon ami, ne la laisse pas aller comme une folle. Elle attrapera encore du mal. Ah, on ne devrait jamais gâter les enfants. » Dès que nous fûmes hors de sa vue, « Jeannot, dit Florette. « À la course, maintenant. À qui arrivera le premier ?» Elle partit. Elle s'envola dans l'allée qui mène aux étables, et je la suivis sans pouvoir l'atteindre, aimantée par sa grâce légère qui fuyait devant moi. « J'ai gagné, j'ai gagné » criait-elle. Et sa joie enfantine riait à toute chose. Elle ouvrit elle-même le bercail des chèvres et m'y fit entrer. « Voilà Bérette, dit-elle. C'est elle que je veux traire aujourd'hui. Prends-la et l'emmène dehors. » Cependant, du fond de l'étable, montaient des bêlements peureux. De petits chevreaux sortaient de leur niche, venaient en gambadant jusqu'à Florette, qui les prenait dans ses bras, les caressait, leur donnait à manger dans le creux de sa main. Pour moi, j'avais beau tirer sur la chaîne de Bérette, elle résistait, sautait, virevoltait, pointait ses mignonnes cornes vers ma tête, refusait évidemment de m'obéir. Et spectatrice de la lutte, Florette en riait aux anges. « Ah, le beau chevrier que voilà! Et que t'a-t-on appris à Toulouse, mon pauvre Jeannot? Tiens, laisse un peu, tu vas voir. Allons, Bérette, allons !» dit-elle simplement. Et aussitôt, l'un docile animal vint cogner doucement contre elle son front têtu et la suivit sans résistance. Et maintenant, Florette s'était mise à genoux. Elle avait empoigné de ses petites mains les tétines de la chèvre et elle traillait, traillait comme une vraie chevrière. Ah, qu'elle était gracieuse et que je l'admirais. Un rayon de soleil à travers les châtaigniers jouait parmi ses cheveux d'or, dont une mèche dans la course s'était déployée comme une oriflamme. À chaque mouvement qu'elle faisait, toute la plénitude de sa fière jeunesse se révélait souple et légère. Il y avait là, sur le pourtour de la terrasse de la ferme, des roses rouges en buissons touffus qui embaumaient l'air. J'en cueillis à pleine poignée, et, sans réfléchir à rien, je les effeuillai, j'en fis pleuvoir sur Florette les odorantes pétales. Ils entraient dans son cou, collaient à sa robe, glissaient dans son corsage, nageaient sur le lait dont la seille s'emplissait. N'osant d'abord bouger de peur de renverser le récipient, Florette cependant s'était dressée toute blanche et blonde en la nuée des pétales sanglants. Elle me regardait, stupéfaite, doutant si elle allait se fâcher. Elle prit d'abord le parti de rire. « Es-tu fou, Jean? Que fais-tu? Oh, c'est vilain, c'est traître de surprendre ainsi les gens. Regarde maintenant ce que tu as gagné. Tu as semé tout mon lait de rose. » Et tout à coup, elle s'interrompit, baissa les yeux, devint rouge comme les roses qui s'éparpillaient sur elle, et voici qu'elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Bouleversé, je lui saisis les mains. Qu'as-tu, Florette? T'ai-je fait mal? Et comment prends-tu une plaisanterie? Je t'en prie, ma chérie, ne pleure plus. Bats-moi plutôt, grosse bête que je suis, et vois ces pétales, petites fleurs, comme ils flottent bien sur la crème. Ronsard, verser les roses dans le vin, ai-je commis un crime en les épandant sur ton lait? Elle me regarda, les yeux mouillés, en souriant. Et pour la première fois, après nos fâcheries d'enfant, je n'osai point l'embrasser, car je l'aurais mangé de baisers. Je vécus quelques semaines de paradis au milieu des miens, dont l'ivresse de la patrie et le charme de Florette qui l'incarnait. Dès le matin, j'allais épier son réveil, j'assistais à la prière et j'entendais le psaume. Puis nous faisions des courses folles en compagnie de Nicole, dans le parc et les environs. Nous allions parfois à cheval avec Timothée Deleuze, et il nous contait de belles histoires du passé. Florette avait beaucoup lu et étudié depuis 4 ans, et m'étonnait par ses connaissances. Je passais avec elle l'après-midi, de belles heures au cours desquelles, aidée parfois d'idelettes, elle me prêchait. Et je demande pardon à Dieu d'avoir plus écouté la prêcheuse que le prêche. C'est qu'elle était si jolie en prêchant. Elle m'expliquait les saints mystères et s'étonnait un peu que je fusse tout de suite convaincu. Elle ignorait, la pauvrette, l'irrésistible argument des fossettes de ses joues, du retrou si amusant de ses lèvres qui faisaient aux commissures de petits nids exquis. J'accompagnais Florette et Nicole dans les masses où on les accueillait comme des messagères de réconfort, d'espérance et de joie. Elles avaient un sens profond du peuple et dans la langue d'oc du pays savaient dire à chacun ce qu'il fallait. Et quelle belle prière elles faisaient. Florette surtout, elle trouvait toujours le mot propre à chaque situation, la consolation délicate. Elle s'élevait parfois à une sorte d'extase mystique où je ne la pouvais suivre et qui, je dois le dire, m'a toujours empli d'une angoisse particulière. Ensuite, elle redevenait l'enfant joueuse, la vierge au sourire qui m'enivrait. Je ne pouvais plus vivre sans elle. Je l'aimais à en perdre le sens. Et à vrai dire, je ne séparais point encore bien net la profonde affection qui nous liait depuis l'enfance de la passion brûlante qui s'emparait de moi chaque jour davantage. Le temps passait ainsi délicieux, et quand je pensais parfois qu'il me faudrait bientôt rentrer à Alès, il me semblait impossible que Florette n'y vînt pas avec moi, car je ne pouvais imaginer que je vivrais sans elle, et je ne voyais pas au-delà du lendemain. L'idée de l'épouser ne me tourmentait pas encore. Il me suffisait d'être avec elle, de prendre à côté d'elle mes repas, au Mas-Roger ou au Montredon, de la voir dès l'aube et de ne la quitter que fort tard dans la soirée. Pourtant, de jour en jour, quand nous nous embrassions, nous évitions de nous serrer tendrement comme nous l'avions toujours fait. Non point par froideur, certes, mais sans en avoir nettement conscience, nous éprouvions une sorte de gêne physique, un malaise un peu fiévreux dont elle ni moi ne cherchions à pénétrer le secret. Et puis maintenant, nous prenions plaisir à nous contredire. Et si, dans nos discussions, je lui donnais trop vite raison, en riant, elle se fâchait. « Ah, disait-elle, je n'aime pas ceux qui n'ont point d'opinion, qui tournent au vent comme girouette. Mon pauvre Jeannot, tu vas à la messe et voudrais venir à l'assemblée. Tu n'es ni tu ni vous. C'est fatigant. » « Florette, il faut, mamie, que tu me tolères encore quelques jours. Tu sais que je vais partir bientôt et ne te chagrinerai plus longtemps. » Elle me regardait, irritée à la fois et plaintive. « Ne parle pas ainsi, Jean, tu veux me rendre malheureuse? Tu sais combien je serais triste d'être loin de toi. » « Oh, la tristesse, on s'en guérit vite, comme de tout, à moins qu'on en meure. Mais tu ne mourras pas, Florette, tu t'habitueras vite à ne plus voir ta girouette. » Et j'étais ainsi méchant. Elle avait envie de pleurer, je le voyais bien, à la légère crispation qui accusait l'adorable fossette de ses joues. Et tout de suite, je me précipitais vers elle, prenais ses chères mains, la regardais bien droit aux yeux. « Ma Florette, pardon, tu sais bien que je suis toujours ton frère, Jean. » Mais elle baissait la tête comme accablée. « Non, disait-elle, non, Jeannot, tu n'es plus mon frère, je le sens bien. » Le beau dimanche, 16e de juillet, nous étions allés voir la cousine à Berlin, à Gabriac, et au retour, laissant dans la voiture mon frère Nicolas, avec Nicole, un peu fatigué, nous avions pris, Florette et moi, le raccourci, nous proposant de rentrer à pied par le Rivet, promenade que nous nous étions si souvent promise. Et quand nous fûmes seuls, voici que nous n'eûmes plus rien à nous dire. Et nous regrettions quasiment de nous être ainsi isolés. Nous étions sourdement irrités l'un contre l'autre. De gros nuages envahissaient le ciel lourd d'orage. Bientôt, la pluie nous surprenait en pleine châtaignerie, vers le fond du val, au joignant des ruisseaux, et nous étions bien heureux de trouver, pour nous abriter, un petit cabanon à pierre sèche qui avait servi jadis à remiser des outils de paysans. Florette était toute songeuse, un peu énervée par l'orage. Nous nous étions assis sur une sorte de banc naturel fait d'un tronc de châtaignier à moitié mangé par le temps. « Je suis triste, Florette, lui disais-je, pensant que dans peu de jours je serai parti. Comment vivrai-je loin de toi, parmi les vieux papiers qui sentent le moisi? Je ne t'entendrai plus chanter le psaume du matin, ni m'enseigner à croire. Tu ne me feras plus boire du lait bourru, semé de roses. » Elle dit sans me regarder, « Pourquoi t'en vas-tu? Que ne restes-tu au Maroger? N'y a-t-il point assez de place ici pour y vivre tous? Ah, comme j'y vivrai volontiers près de toi, tu le sais, Florette. Mais ne faut-il pas que je parte? Ton père, mon cher maître Baduel, m'attend. Nous avons fait pacte à touchement de main, comme il dit, et il est nécessaire que j'aie un état. » Elle dit d'une voix dure que je ne lui connaissais point. « Alors, pourquoi te plains-tu ? » Je demeurai tout saisi. « Florette, que t'ai-je fait ? Tu es fâchée ? Regarde-moi, je te prie. » La pluie faisait rage au dehors, et les coups de tonnerre se succédaient rapidement. Florette demeurait immobile et muette. « Ah, quelle peine tu me fais ! » lui dis-je. « Mon ami chéri, regarde-moi, parle-moi, je ne puis supporter ton silence. Tu sais que nous ne nous quittions guère autrefois, et quand j'étudiais chez ton père à Alès, tu y restais volontiers. Pourquoi n'y reviendrais-tu pas maintenant qu'il faut que j'y retourne ?» Elle se dressa tout à coup et ses yeux flambèrent. « Pourquoi ? Tu demandes pourquoi je ne reviendrai pas à Alès. Mais ne le devines-tu pas ? As-tu donc des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point ouïr ? Tu voudrais que je retourne dans cette ville, habitacle des apostats et des hypocrites, où chaque jour j'aurai le cœur blessé par les petites lâchetés de ceux qui renient Dieu pour garder leur charge. » J'étais épouvanté. « Florette, Florette, ne va pas plus avant, épargne les tiens. Oh, je parle de tous, des miens et des autres, ils ont eu tort d'abjurer leur foi. Tort de nous élever, pauvres enfants débiles, dans la feintise et le parjure. Oui, malgré l'horreur que j'en ai, je préfère encore des incrédules, comme mon père, ou ceux qui vont de bon cœur au confessionnal, comme Isabeau, aux autres qui ne vont franchement nulle part. Ces autres-là me répugnent. Peux-tu voir, sans que ton cœur se soulève, ces hommes qui, à la messe, tiennent le chef mussé dans leur chapeau pour ne pas voir le célébrant? Ces femmes qui se rendent à l'église romaine avec des livres d'heures, où parmi les sottises papistes se cachent des versets de la Bible qu'elles lisent en secret pendant l'office. Ces tartufferies me font horreur. Et puis, là-bas, ne devrais-je pas moi aussi aller à la messe? N'essaierait-on pas de me mettre au couvent, comme Isabeau? Et toi, Jean, que feras-tu? Pourras-tu ne pas pratiquer, ne pas sombrer dans cette vile hypocrisie? Non, je ne vais plus à Alès. Je reste ici avec les paysans, la lie du peuple. Comme disent nos puissances, gavées d'or et souillées de crimes. Seuls ces paysans ont gardé leur foi, dans la simplicité de leur cœur. Seuls, ils sont demeurés dignes de leur nom, les hommes du pays. Seuls, ils peuvent se passer des temples qu'on a abattus, car ils ont pour temple indestructible la nature de Dieu. Oui, je reste, et ceux qui n'ont pas la foi que j'ai, qu'ils aillent où ils voudront. » Elle parlait plus haut que la tempête, et sa voix dans mon cœur grondait comme un autre tonnerre. Je n'osais pas la regarder. Je tremblais, pauvre misérable. Ainsi, Isabeau avait dit vrai. Aucun accord n'était possible entre les cultes. Nul compromis ne serait toléré. Il me fallait choisir. Et, dans le bouleversement de tout mon être, je me mis soudainement à sangloter, la tête dans mes mains. Florette se tut. « Ah, disais-je à travers mes sanglots, tu m'as navré jusqu'au cœur, ma sœur chérie. Tu me chasses, et je mourrai loin de toi. » Elle s'abattit sur le banc, me prit la tête dans ses bras, et maternelle employa d'un surinstinct le parler de la race, la douce Languedoc de notre terre. « Ô Jean, disait-elle en me berçant, ne pleure plus, tu me déchires le cœur. Moi non plus, je ne pourrais vivre sans toi. Tu le sais bien, tu sais que je ne te chasse pas, grand Dieu, et je ne pourrais dire moi-même combien je t'aime. Elle me couvrait le visage de baisers, mêlait ses pleurs aux miens et son haleine m'énivrait. Subitement, un effroyable éclair incendia toute chose, suivi presque aussitôt d'un coup de tonnerre, bref et terrible. Elle se blottit contre moi. « Oh, j'ai peur !» dit-elle. « Jean, garde-moi » Je la pris dans mes bras comme un enfant chétif. « Ne crains rien, » lui dis-je, « je suis là. » Elle me regardait de ses grands yeux brillants de larmes. Nos regards s'unissaient, se pénétraient jusqu'à nos âmes confondues. Je pris alors sa tête dans mes mains, la tirai vers moi et, lentement, je baisai sa bouche. Dans le délice imprévu de la caresse solennelle, elle s'abandonnait en pleine confiance. « Ah ! Comme je l'aimais, et qu'il m'eût été impossible de la ternir même en pensée. Je déliais mon étreinte avec une infinie tendresse. Elle fermait les yeux, baissait la tête encore défaillante. Je la mis debout près de moi. La pluie avait cessé, l'Anguillas chassait les nuages. « Florette, criai-je, regarde l'azur nouveau. Le ciel s'éclaire, toute la nature se met en fête pour célébrer nos fiançailles. » Alors, elle sourit de son sourire enivrant. « Je suis à toi, Jean, et ne serai qu'à toi, dans cette vie terrestre et pour l'éternité. » Moment divin dont l'ineffable souvenir est ma garde contre le doute et le désespoir, radieuse certitude que nos âmes à cette heure se lièrent à jamais. Dieu eût-il pu permettre que notre amour, du premier bond, s'éleva jusqu'à cette félicité céleste, si nous ne devions la goûter ensemble dans le ciel, au siècle des siècles. Le retour par le rivet fut un enchantement. Sur les granites roses, le ruisseau grossi par la pluie bondissait en riant, éclaboussait les frênes et les vernes, les investissait, les poussait, leur imprimait un mouvement rythmique, en sorte que tous ces feuillages vivaces se balançaient devant nous, saluant notre amour radieux. L'air était gai, le vent chantait dans les pins et les rouvres. Nous marchions la main dans la main, ne cessant de nous arrêter pour nous certifier l'un à l'autre un bonheur indicible. « Laisse, disais-je, que je te regarde, ma belle, ma jolie, je te vois pour la première fois, tu m'es nouvelle. Ah, les tristesses, les cauchemars, où sont-ils? Il a suffi que tu parles, et ils se sont enfuis vers les abîmes. Oh, ami que tu es adorable! Oh, ami que tu es adorable! Il y a dans tes yeux une source de vie limpide où mon âme brûlante se désaltère. Laisse, laisse que je boive ton regard, que je respire ta bouche, ô bien-aimée. » Et je l'attirai vers moi, mais elle rougissait et me repoussait doucement. Il est écrit au cantique de Salomon, « Ô que n'es-tu mon frère, je te rencontrerai dehors et te baiserai sans que nul me pût critiquer. Aujourd'hui, Jean, tu n'es plus mon frère, tu es mon amant. » Mon époux chéri, et nous aurions beau nous cacher pour nous soustraire à la critique des hommes, si nous cédions maintenant à nos désirs de caresse, nous sèmerions le mépris, le remords dans nos cœurs. Et que m'importe, ô prêcheuse, si je ne puis voir ta bouche sans mourir d'envie de la prendre? Au coin de tes lèvres rouges, il y a des nids où les baisers comme des oiseaux veulent éclore et battre de l'aile. Je t'en supplie, Florette, une fois encore tes lèvres, une fois seulement. Je suis tout à toi, mon frère, mon élu. Vois le soleil éblouissant. Il brûle moins que mon amour. Ah, je l'ai bien senti, sans d'abord le comprendre, depuis le jour que je t'ai retrouvé, depuis la nuit que les pétales de rose que tu m'avais jetés glissaient dans mon corsage, restaient sur ma peau, m'ont réveillé de leur odeur troublante et tenu jusqu'au jour, les yeux ouverts. J'ai bien connu alors que j'étais tienne et la chair de ta chair. Ô Florette, que me dis-tu? Qu'as-tu fait de ces pétales? Je les ai mis à sécher au feuillet de ma Bible. Ils sont là, maintenant, dans ce médaillon qui ne me quittera jamais. Elle me tendit un petit bijou d'or ovale que je baisai passionnément. Elle ajouta, grave et souriante, « Laisse-moi toute pure, s'il te plaît, mon ami. Ne me trouble pas. Garde intact le trésor des délices. Je suis ta Sulamite, et quand l'heure viendra, je te mettrai comme un sceau sur mon cœur. » Et je sais bien que notre amour est plus fort que la mort.